manquait pas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6. Aujourd'hui, nous sommes quatre pour animer cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
De Pierre-Yves.
Salut tout le monde.
Et de Dominique.
Salut.
Alors, comme d'habitude, de 18h à 19h, nous allons vous parler d'activités ludiques. Et nous allons tout de suite commencer ce sommaire par ouvrir par un petit jeu de rôle qui est actuellement sur Ulule. Donc Ulule, c'est un projet participatif, hein, un peu comme Kickstarter que tout le monde connaît. Et c'est vrai que même si beaucoup de gens ont adapté leur jeu de rôle pour s'adapter à l'univers de Conan, on n'a pas forcément vu beaucoup de jeux de rôle qui s'imprimaient en tel quel, quoi. Le jeu de rôle Conan.
Il y a eu quelques jeux quand même. Il y a eu chez le système GURPS, du coup, il y avait eu Conan. Après, il y a eu Conan, le système D20, donc système OGL, donc c'est un peu la licence ouverte hein, pour l'adapter au D20.
Il y a une dizaine d'années à peu près, oui, c'est ça.
Ouais. Et après, chez Mungoose Publishing, donc en 2004, là, c'est pareil, encore un système D20 basé sur le monde de Conan.
Alors apparemment, ce nouveau projet de jeu de rôle Conan est publié par Funforge, c'est ça ?
C'est un éditeur bien renommé qui fait en général dans le jeu de société, le jeu de plateau classique. Mais de temps en temps, il se laisse. Je pense que pour lancer un jeu de rôle, oui, c'est quelque chose d'un petit peu plus risqué peut-être. Donc effectivement, passer par le financement participatif, c'est un bon moyen de faire connaître d'une part, de financer éventuellement, et puis de voir si ça intéresse du monde.
Voilà, ouais, effectivement, une étude de marché peut être assez efficace au niveau du Ulule. Alors ici, on est à 98% de remplir les conditions pour lancer le projet.
Ouais, au moment où l'émission passera, ça sera sans doute financé. Parce que le financement se termine dans 10 jours à peu près.
Le 5 mai à 16h. Ça a été lancé le 20 avril. Là, au moment où on enregistre, ils sont à 18 775 euros sur les 20 000 euros demandés, donc pratiquement terminé. Et ça, le Kickstarter, mais la campagne Ulule se termine le 5 mai à 16h. Donc ils ont largement le temps de finir, de pouvoir faire le palier, quoi.
Donc pour retrouver, c'est facile, hein, il suffit d'aller sur ulule.com, ulule.com, de chercher Conan JDR, on trouve ça facilement. Et en fait, il y a deux contreparties. Soit c'est 40 euros, on a le livre de base, juste le livre de base Conan, Aventure épique d'un âge oublié, ça c'est le titre complet. Pour 80 euros, et là on a le pack Chrome, j'aime bien le nom, il y a le livre de base, plus un écran, plus un livre de ressources pour le maître de jeu, plus des scénarios, et tous les paliers qui seront débloqués éventuellement.
Sachant que pour l'instant, il n'y a qu'un seul palier qui est à débloquer, qui est à 30 000 euros, qui est un livre de scénario ou un scénario en plus. Donc, à voir s'ils vont en débloquer d'autres paliers plus tard.
Parce que c'est vraiment pas indispensable, parce que autant là, effectivement, s'il y a eu quelques essais de jeux de rôle, mais l'univers de Conan est tellement riche, il y a tellement de littérature dessus, sans parler des films et des séries.
Ouais, mais...
Et après, que pour créer ton scénario, franchement, c'est facile.
D'ici là, François a reçu sa paye, et comme en avril avec le Covid-19, il n'a rien dépensé. Il pourra dépenser 10 000 euros pour atteindre 30 000, c'est pas un souci.
Pourquoi pas, écoute.
Il préfère casquer 10 000 euros plutôt que d'inventer un scénar. C'est bien notre François.
Surtout qu'en plus, rien que pour l'objet lui-même, même si tu le fais pas jouer, au niveau des illustrations, quand on voit la liste des artistes qui ont participé, c'est impressionnant.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se sont pliés à comme ça à dessiner du Conan, puisque il faut dire que Conan a été déporté sur plusieurs supports. Hein. Ici, on parle d'un jeu de rôle. Il y a forcément des jeux de société, il y a des jeux vidéo, il y a des bouquins. Et je me demande même si il n'y a pas des livres dont vous êtes le héros Conan. En tout cas, ça serait une très bonne idée. Alors, qu'est-ce que vous connaissez, vous, de l'univers de Conan ? Est-ce que, prenons l'exemple du jeu de société, est-ce qu'il y a des jeux de société qui vous ont marqué dans l'univers de Conan ? Je sais qu'il y en a un qui était également en projet participatif. Alors, c'était peut-être en Kickstarter, cette fois-ci, ce fameux jeu Conan qu'on a vu dans toutes les conventions de jeux de société.
Qui est sorti en quoi, 2015, 2016, quelque chose comme ça ? Par Fred Henry, entre autres, ouais, c'est ça, c'est un énorme
jeu. Par l'éditeur Monolith, pour être plus précis.
Ouais. C'est ça.
Les figurines étaient superbes aussi.
Ah oui, c'était l'intérêt. Je sais plus combien coûtait la boîte. Elle coûtait à plus de 100 euros, mais il y avait des
figurines
magnifiques, et puis plein d'extensions et des plateaux de jeu. Enfin, c'était incroyable. Puis un système de jeu assez innovant, assez sympa. Alors, le jeu a été beaucoup décrié quand il est finalement sorti parce que les règles avaient été écrites, réécrites. Pas vraiment relu, etc. Beaucoup de gens critiquent les règles. Bon, j'ai joué, bon, mais ça s'est arrangé par la suite, quoi.
Ce qui est bien, c'est qu'avec ce jeu-là, tu as des figurines qui sont tirées du même univers de la littérature et des romans de Conan. Donc, tu as déjà toutes les figurines qu'il te faut pour représenter sur table tes scénarios que tu vas faire en achetant le jeu de rôle, quoi.
Parfait, ouais.
Or, pour ma part, moi, j'ai vu puisque je l'ai dans ma collection de jeux de société, alors que j'en ai pas beaucoup, hein. J'avais acheté ce fameux jeu de cartes qui s'appelle Conan, le jeu de cartes. Un nom très bien pensé. qui était produit par la société IAG, et ça me faisait un peu penser à une sorte de jeu à la Magic où vous commenciez à poser vos cartes pour ensuite atteindre des objectifs.
Il fallait faire des missions, je me souviens.
Effectivement. Alors, c'est pas le jeu de l'année, peut-être pour les fans d'amateurs de Conan, ça peut être sympathique, mais bon, il y avait une mécanique correcte. Voilà, mais c'est pas forcément le jeu que j'ai ressorti, pour être honnête, de ma bibliothèque.
Oui, on doit pouvoir le trouver à 2-3 euros dans les braderies.
Ah, après, surtout qu'il était très mal noté à l'époque.
Je le revends pour 2-3 euros, voilà, c'est envoyé.
En jeu de plateau, après, vous avez aussi un Edge of Conan, qui est en fait un peu le même système que le jeu Terre du Milieu, donc avec aussi des figurines en plastique de qualité un peu moins bonne. Mais là, qui était du coup peut-être un peu plus stratégique, je pense.
C'est ça, c'était un jeu de stratégie, une belle grosse boîte.
Oui, oui, un bon jeu aussi, tout à fait. Qui a eu, je pense, un succès assez important.
On parle de Conan, je pense que tout le monde attend qu'on parle de ce fameux film avec Arnold Schwarzenegger.
C'est le fameux film.
Oui, il y a Jason Momoa aussi, n'oublions pas.
Alors oui, bah justement, puisque Jason Momoa a une longue carrière, hein, on l'a connu récemment dans Game of Thrones, qui a dû potentiellement faire monter son nom sur Google.
Ah, c'est Aquaman surtout qui l'a fait connaître. Non, je plaisante.
Mais il a joué dans Conan également.
Le premier film donc c'est Conan le Barbare avec Schwarzenegger, c'est 82, et juste 2 ans après, il y a eu Conan le Destructeur, donc la suite. Et le Conan le Barbare avec Jason Momoa est de 2011, lui. Après, il y a eu d'autres films qui étaient adaptés. On parlait de Kalidor, enfin, hors antenne. Kalidor, c'est pas Conan, il y a Schwarzenegger dedans, mais c'est quand même adapté des nouvelles du même auteur de Conan, qu'on n'a pas cité, qui s'appelle Howard.
Robert Howard, oui.
Bon, après, Kalidor n'est pas... c'est Sonia Larousse, en fait. C'est Red Sonia, le titre anglais, en français, c'était Kalidor. Oui. Mais ça, c'était tiré du même univers.
C'est peut-être pas le meilleur film non plus, hein, bon...
Et après, je me souviens aussi qu'il y a eu une série, alors je sais plus de quand elle date, une série allemande, avec un acteur allemand, adapté en série. Je crois qu'il y a eu une saison, mais il y avait une vingtaine d'épisodes. Bon, pour les amateurs, ça peut être sympa de regarder ça.
Les séries allemandes, c'est Derrick, et je vois pas Conan dans Derrick, hein, mais bon.
Mais moi, je vois bien Derrick dans Conan.
Ouais, mais là, c'est des films qu'il faut pas moins de 18, c'est dégueulasse.
Ah oui, c'était en 97, effectivement, qu'est sortie la série... Conan, tout à fait, avec Ralph Moller.
Alors, on demandera aux aventuriers des salles obscures de nous faire un dossier spécial Conan, mais il y a également des jeux vidéo qui ont été sortis sur Conan, et j'ai joué de nombreuses heures sur ce fameux jeu qui est Edge of Conan, qui est actuellement en version Unchained, ça veut dire qu'il est gratuit. Ça veut dire que, effectivement, à l'époque, vous deviez acheter le jeu et potentiellement avoir un abonnement par mois. Et comment est-ce que ce jeu a été développé? C'est tout simplement la société Funcom, et on en reparlera puisqu'il y aura d'autres jeux également, qui a racheté les droits du jeu Conan et a décidé de sortir un MMORPG. Alors à la base, c'était surtout pour concurrencer World of Warcraft, qui à l'époque avait déjà plusieurs années de fonctionnement avec de nombreux joueurs, donc eux ont voulu surfer sur cette vague d'abonnements mensuels qui semblait...
C'était pas les seuls à avoir eu cette idée. Hein.
Est-ce que tu vas en citer un par hasard? Mais il y en a
des centaines. Aucun n'a réussi, hein. Pas de spoil, aucun n'a réussi. Hein.
Non, mais World of Warcraft est toujours en cours avec ses abonnements. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres jeux qui arrivent à tenir à leur cheville. Mais Edge of Conan avait réussi le pari d'avoir un gameplay assez différent que World of Warcraft, avec un univers un peu plus réaliste. Et pour moi qui ai joué de longues heures, c'est vrai que c'était assez prenant. Vous pouviez donner des coups d'épée de gauche à droite. Vous aviez pas forcément l'impression d'être dans un univers de Conan le Barbare, puisque vous le croisiez une fois que vous étiez niveau 50 ou autre, mais il y avait vraiment un gameplay intéressant.
Tout l'univers, le background, etc., était vraiment tiré des livres Conan, quoi. Donc ça s'adressait peut-être plus aux experts, aux gens qui avaient lu les bouquins ou qui connaissaient mieux l'univers que les gens qui étaient simplement fans de qui voulaient croiser Schwarzy dans un jeu vidéo, quoi.
Oui, en sachant que tu n'étais pas obligé de faire un barbare, hein. Il y avait aussi d'autres classes de personnages.
Non, il y avait des barbares.
Tu pouvais être magicien, démoniste. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que quasiment l'intégralité du royaume était en PVP. Donc lorsque vous faisiez vos pauvres quêtes de base, vous pouviez très bien rencontrer d'autres joueurs et commencer soit une communication,
diplomatie.
Soit une discussion armée. Voilà.
Tu tapes d'abord et tu parles après.
Voilà, comme on les aime.
C'était très sympa. Je me rappelle on avait des montures et on pouvait avoir des mammouths comme montures. Si je dis pas de bêtises. C'était sympa.
Pour moi, c'est un des MMO qui m'a le plus marqué. Je pense que Edge of Conan, c'est l'un des jeux, s'il avait continué sa progression comme d'autres jeux le font, enfin, je serais sûrement en train de jouer actuellement. Il y a eu d'autres jeux, puisque dernièrement, on a pu voir qu'il y a eu un Edge of Conan Exile. Alors forcément, encore produit par Funcom, et cette fois-ci on est plus sur un jeu de survie.
Ouais, c'est ça. Tu commences pratiquement tout nu, ton personnage est tout nu, et tu dois ramasser un caillou et un bout de bois, puis avec le caillou et le bout de bois tu te fais une hache. Avec la hache tu peux éventuellement attaquer des petits animaux, mais tu vas couper du bois, tu vas ramasser des plantes et tu te fais un abri, etc. Et ça te développe, et tu pars de rien et tu rencontres d'autres joueurs avec qui tu montes des équipes, des villages, c'est assez rigolo comme jeu.
C'est un barbare intellectuel qu'on a alors.
Bon et bof.
Pas vraiment, parce qu'au début tu te faisais bolosser par la moindre bestiole, et ce jeu prenant parti ce que Ark, un autre jeu de survie de l'époque, avait fait c'était de mettre une sorte de petite quête où tu pouvais aller faire pour avoir une idée de jeu, aller évoluer dans le jeu, qui te servait strictement à rien, parce qu'au bout de 5 minutes, tu faisais ta maison d'un côté et la quête, tu l'avais complètement oubliée. Mais ça permettait aussi de rencontrer d'autres personnes, comme on disait, et de créer des serveurs roleplay sur ce jeu. Soit tu pouvais créer des serveurs roleplay ou des serveurs PVP, où là, tu vraiment le côté barbare du jeu, où tu créais des forteresses et après tu allais sur le clan ennemi pour l'attraper et après mettre ses villageois chez toi, ou soit faire un serveur roleplay où vraiment tu reprenais les films, quoi, vraiment dans cette atmosphère-là.
Le gros avantage, c'est qu'effectivement, t'avais un univers qui était un peu connu, quoi, l'univers de Conan. C'était assez ça.
Par contre, ce qui me surprend, c'est que pour l'instant, aucun d'entre nous n'a parlé du jeu Barbarian.
J'y ai pensé, hein, mais j'ai pas eu le temps.
Sur Amstrad, oui, tout à fait.
Quand même, ça m'a rassuré.
C'est pas Conan, moi j'ai joué sur Amstrad. Hein. C'est pas Conan, mais tu jouais juste un guerrier qui se battait avec une grosse épée. Et puis si tu te débrouilles bien, t'arrivais à couper la tête de ton adversaire. J'étais très largement inspiré, on va dire.
Et ça me fait penser aussi du coup à un autre film qui s'appelle, alors c'est Die Barbaren, avec de mémoire, c'était Gore et Kouchek, les héros.
Ah, les Barbarians, ce magnifique
voilà.
Film. Voilà.
Avec deux frères jumeaux, hein.
Exactement.
Sont-ils réellement jumeaux dans la vraie vie? Je ne sais plus.
Oui, absolument. Ils ont fait plein d'autres films. On va appeler ça des films. Bon, mais, et je me demande même s'il y en a pas un des deux qui est mort récemment, mais je suis pas sûr.
Ça fait partie des films cultes de Dominique, quand même.
Oui, non, mais c'est vrai. Dans le genre gros navet, c'est devenu culte.
Effectivement, je confirme. David Paul, donc l'un des deux frères, est mort il n'y a pas longtemps, il y a à peine un mois, au début mars.
Ah non.
Il allait avoir 63 ans.
Il y a un troisième jeu après Conan Exile, après Edge of Conan, toujours produit par Funcom, c'est Conan Unconquered. Et on va pas le détailler puisqu'il a pas eu vraiment de succès flagrant, et surtout parce que ici on part sur un jeu de stratégie. Alors stratégie versus Conan, je pense qu'il y a un petit décalage. Est-ce qu'il y a d'autres actualités Conan que vous avez remarqué de votre côté?
Bah, c'est vrai que Conan, on l'oublie pas, c'est quand même des livres, des vrais livres avec des mots sans images, etc. Et ça a été adapté en BD et ça a eu un, enfin en BD comics quoi, mais ça a eu un énorme succès. Je crois que c'est ressorti récemment, bah, justement parce que Conan est tombé un petit peu dans le domaine public, ce qui fait que beaucoup de monde ont pu produire des œuvres dessus et ils ont ressorti. On peut retrouver l'intégralité des BD de Conan.
Je me souviens avoir lu effectivement le livre Conan le Barbare, enfin le premier livre en fait. Et bon, je ne vais pas dire que ça mal vieilli, mais quand on le relit aujourd'hui avec la lumière actuelle, bon, ça fait un peu. On est un peu déçu en fait.
Et apparemment, il y a même un dessin animé, une série animée Conan qui serait passée sur M6. J'avoue que je suis passé complètement à côté de ça. Je crois que c'est pas très très grave.
Mais bah, pour revenir sur la BD, il y a de mémoire, il y avait une BD qui s'appelle Conan le Cimérien en 2019. Il y avait le tome 6 qui était sorti. Donc c'est une série qui est en cours.
Donc c'est une nouvelle, complètement nouvelle série alors.
Et il n'a pas l'air d'avoir d'autres sorties chez Glénat, et je ne sais pas s'ils continuent la série ou s'ils sont passés à autre chose depuis. Là, je pourrais pas vous dire.
Je vous propose, puisqu'on parle de Conan, de peut-être écouter ce générique tellement fameux, cette introduction du film Conan.
C'est Basil Paul de Ruiz.
Voilà, je vous propose d'enchaîner cette fois-ci avec... On parlait de Conan qui était adapté depuis un film vers un jeu vidéo et d'un jeu vidéo forcément peut-être vers un futur film qu'on verra peut-être prochainement. Mais il y a énormément de jeux vidéo qui ont été transposés comme ça au cinéma. Et on a fait une petite liste, alors vraiment petite, surtout sur les dernières actualités. Comme on a du mal à rebooter des séries jusqu'à la 10e version, est-ce qu'on n'essaierait pas, pour faire un peu d'argent, de s'attaquer aux jeux vidéo? Et c'est un peu l'impression qu'on a en ce moment. Est-ce qu'on n'essaierait pas justement d'agripper ce marché, puisqu'il y a de plus en plus de joueurs? Est-ce qu'il y a des films adaptés de jeux vidéo qui vous ont marqué récemment?
Ah, je pourrais commencer peut-être par le film Tomb Raider, où il y a eu plusieurs jeux vidéo. Alors, tout le monde se souvient des premières cartes graphiques 3DFX, tout ça, avec le jeu Tomb Raider.
Tout en polygone. Depuis...
Alors, ça reste un des premiers jeux 3D sur PC qu'on pouvait jouer à grand public.
J'avais acheté pour mon PC une carte S3 Verge avec
une carte
3D, où elle faisait un peu de 3D, et elle était spécialement adaptée pour le jeu Tomb Raider, s'il te plaît. C'est écrit sur la boîte. Toutes les cartes vidéo n'étaient pas adaptées pour le jeu.
Rappelle-nous ta config de l'époque, t'avais combien de RAM?
Le vendeur qui m'avait monté mon PC, il croyait que j'hallucinais parce que il me proposait 4 mégas de mémoire, je lui demandais non, je veux 8 mégas de mémoire. Et le mec, il m'a regardé dans les yeux, vous êtes sûr que vous voulez 8 mégas de mémoire? Ça fait beaucoup.
On fait le parallèle avec ce qu'on a actuellement, c'est quand même assez effrayant, quand même.
Autrement, après, il y a aussi Mortal Kombat, par exemple, ou Street Fighter aussi, un peu dans le même genre.
Voilà, j'ai eu peur que t'enchaînes sur Street Fighter, justement.
Avec JCVD.
Effectivement, un fameux film qui a pas été récompensé par qui que ce soit et qui ne le sera probablement jamais. Mais est-ce que vous avez encore des souvenirs de ce Street Fighter, le film?
Très peu.
Voilà, je...
Ah, mon Dieu, il y avait un casting magnifique, mais c'est tout ce qu'il y avait de magnifique dans le film, le casting.
Voilà, je me vois une image d'une scène avec Jean-Claude Van Damme, et c'était Kelly Minogue de mémoire qui était
exactement
avec.
Qui faisait Camille, oui.
Et je vois juste cette image du film où je les vois à deux, mais sinon le reste du film complètement oublié.
Imaginons que demain vous avez la possibilité de transporter un de vos jeux vidéo préférés vers une plateforme film. Rénal, est-ce que tu as une idée de jeu vidéo que tu voudrais transposer en film qui n'a pas déjà été faite? Parce que apparemment, là, on est parti pour avoir du Super Mario Bros. Le film. On avait déjà eu la série avec ces deux
déjà,
vieux.
Il y avait déjà eu un film. Il y avait eu un film Mario Bros. Hein, dans les années il y a longtemps.
Bah, je t'avouerais que il y avait le côté House of the Dead, mais c'est déjà des films et téléfilms qui ont déjà été faits par rapport qui n'ont rien à voir avec le rail shooter House of the Dead qui avait été fait par Sega à l'époque. Mais là, je me verrais bien mater un film sur la licence Borderlands qui fait de Borderlands 1, 2 et celui qui est sorti le 3 actuellement.
C'est des films, des jeux vidéo pardon, qui sont réalisés avec un esprit déjà. Mise en scène, cinéma,
c'est complètement what the fuck.
C'est presque des films interactifs plus que des jeux vidéo. Enfin, c'est vraiment, on est dans, donc c'est presque naturel, quoi. C'est presque trop naturel. Ouais, c'est pas évident.
Si on peut garder l'esprit barge de Borderlands et le côté un peu action, pas forcément le côté m'as-tu vu de je prends un flingue, je tue tout le monde. Ça, il y en existe des mille et des mille au niveau des films action. Mais juste le côté action barge, l'ambiance. L'aventure, les monstres, enfin, tout ce qui concerne le cœur de Borderlands, là, franchement, je serais...
Oui, clairement, les créateurs du jeu sont clairement... Enfin, ils doivent avoir une culture cinéma, c'est énorme. C'est un petit peu comme si Tarantino avait réalisé un jeu vidéo, peut-être. Enfin, j'exagère un peu, mais on est un peu dans l'esprit, quoi. Ça serait quelque chose de complètement barré.
Surtout que les scénarios du 1 et du 2 sont complètement... Enfin, il faut voir ça avec deux lectures. La première lecture, tu le fais, tu traverses le jeu, tu détruis tout avec ton fusil, tu fais pas trop gaffe. Après, tu refais ne serait-ce que Borderlands 2 avec
regardant
vraiment, voilà, tu lis les dialogues. Surtout, tu écoutes, par exemple, la voix du grand méchant dans Borderlands 2, c'est le même acteur qui fait South Park Cartman. Donc, une fois que tu sais ça, tu fais le rapprochement entre les deux et ça donne une autre dimension au jeu. Et tout serait nickel chrome pour passer un très bon moment dans un cinéma.
De plus en plus dans les jeux vidéo, on fait appel à des acteurs. On en avait parlé il y a une ou deux émissions, quand on avait parlé des BAFTA Awards. Il y avait des catégories dans les BAFTA Awards, donc qui récompensaient les jeux vidéo. Il y avait des catégories pour les meilleurs acteurs qui jouaient des rôles dans des jeux vidéo. Donc tu vois, on atteint. Enfin, les deux mondes sont vraiment interpénétrés.
Vous parlez de Keanu Reeves bientôt, non, qui va être dans un jeu vidéo.
Exactement, ou... Keanu Reeves, il va être dans Cyberpunk 2077.
Tout à fait.
Mais il sera pas dans Mario Bros.
Il pourrait.
Tout dépend comment.
Non, mais le Mario Bros, ça va être un dessin animé, je crois. Je sais pas s'il y aura des vrais acteurs, je suis pas certain.
Dominique, je te donne un jeu vidéo. Qu'est-ce que tu me sors au film?
Bah, Isio. Je cherche un jeu. Qu'est-ce qui pourrait être bien branque? Ah si, Super Hot. Oh, Super Hot en film.
La vache.
Mais ça serait un truc assez bizarre. Ça, il y aurait. Ouais, faut voir.
Ouais, je le verrais bien en série. Ouais, je le verrais bien en série plutôt qu'en film.
Un truc interactif, tu vois.
Ouais, chaque série, enfin chaque épisode étant une situation donnée, un peu comme un niveau dans Super Hot, et tu vois comment la personne dans la série réagit, enfin l'acteur réagit en fonction de la décision qu'il a donnée. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais bon.
Super Hot, pour le rappeler, c'est un jeu vidéo où, pour le faire très simplement, lorsque vous ne bougez pas, le temps s'arrête, et lorsque vous bougez, le temps revient à la normale. Donc vous devez éliminer des ennemis, et forcément, lorsque vous ne bougez pas, vous pouvez analyser la situation.
C'est plus qu'un jeu, c'est une espèce d'expérience ludique, enfin assez spéciale. En plus, avec des graphismes très très simples, quoi. Il y a du blanc, du rouge, et c'est tout. Il y a des décors basiques, et ça pourrait être amusant de voir ça. Que quelqu'un se dise, tiens, je vais adapter ça en vidéo ou en jeu, en film.
Ça m'étonne que tu n'aies pas dit God Simulator.
God of War.
Ça serait. Goat of War. Challenge accepted. Dominique, j'avais proposé plusieurs propositions d'albums découvertes. Et lorsque je t'ai proposé d'écouter de la K-pop, tu m'as dit, mais non, c'est de la grosse merde.
C'est pas de la merde, c'est de la soupe. Attends, j'ai écouté le morceau que t'as mis. Tiens, c'est vrai, j'étais en train de faire ma liste de courses. Ah oui, il faut que j'achète de la soupe aussi. Et c'est exactement ça.
Alors pourquoi est-ce que je propose ces albums de K-pop? C'est parce que notre arbitre de back-to-back est fan de K-pop. Alors, est-ce qu'on lui rendrait pas hommage en lui passant un peu de sa soupe préférée? Et forcément, ça surfe sur les dernières vagues musicales qu'on peut connaître, avec des jeunes filles qui se déhanchent comme ça en vidéo. Tout ce qu'il faut pour rapporter de l'argent coréen. Un petit extrait de
Allez,
K-pop.
Allez, c'est parti. 내 품 안에 안기네 흐르는 음악에 심신을 뺏긴 채 그대로 벌려주네 Oh God Help me, help me 숨이 멎을 것까지
Et surtout, tu m'as même pas demandé moi quel film je voulais voir, quel jeu je voulais voir adapté, quoi. Ça m'a.
Si tu l'as dit.
Tu veux voir quel film, Pierre?
Ah merci. Alors déjà, je voudrais parler d'une série qui a été, enfin plutôt d'un jeu qui est sorti en série, The Witcher. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais j'ai trouvé que ça collait vachement bien. Enfin, j'ai beaucoup retrouvé l'esprit de la série avec du coup le sorceleur qui prépare ses potions, tout ça en fonction du monstre qu'il affronte et tout. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et après, alors comme je suis aussi à ces jeux de rôle, c'est vrai qu'entre Deus Ex, Skyrim, tout ça adapté, mais bon, je pencherais peut-être plutôt pour un Fallout, un univers un peu genre Mad Max.
Un film Elder Scrolls, ou une série Elder Scrolls. Voilà, je pense que après Game of Thrones, ça va être un peu dur, mais dans l'esprit, pourquoi pas, ça peut tenter des gens. Hein. Ils vont bien faire une série Le Seigneur des Anneaux.
Alors Amazon promet cette série Les Seigneurs des Anneaux qui n'arrive toujours pas. Et ça depuis plusieurs années. Effectivement, quelque chose de basé sur Elder Scrolls, mais Elder Scrolls étant tellement large, vous offrant tellement de possibilités de jouer sur un univers magique ou plus ou moins corps à corps, etc. Je pense qu'ils auront peut-être un peu de mal de s'adapter à ça, puisque mine de rien, ça reste un. Si vous faites un film Elder Scrolls, vous partez sur un film Donjons et Dragons.
Tu veux qu'on ait du
coup. Tu as les différents jeux, hein. T'as les tout premiers de Daggerfall, Arena, jusqu'à Skyrim.
C'est une histoire tellement riche.
Voilà, ils sont sur des temporalités tellement distendues que tu sais pas est-ce que tu vas jouer sur le côté Morrowind et ou le côté Skyrim. C'est pas du tout la même géographie, c'est pas du tout le même temps, c'est pas du tout les mêmes personnages, les mêmes suspicions, les mêmes tragédies.
Enfin, ouais, puis franchement, un truc avec des dragons, ça marchera jamais en série.
Et tu vas être complètement mis à l'amende par rapport à Game of Thrones et des compagnies, donc c'est très risqué.
Mais les néophytes de Elder Scrolls ne verront pas la différence entre un Donjon Dragon et un Elder Scrolls. Si tu parles de la géographie, effectivement, qui affecte tout le monde qui a joué Elder Scrolls, si demain on te sort le mot Morrowind dans un film, forcément,
je te rappelle, ils ont fait un film dans Warcraft. Hein. Alors, je sais pas s'il a marché ou pas, mais il y a pas une suite. Il y a pas une suite. Donc,
enfin, un film.
Les millions de joueurs de World of Warcraft ont peut-être piraté le film. Mais est-ce que ça, comme ça, ils pouvaient regarder le film tout en continuant à jouer.
Le film, il sera intéressé que par justement des personnes qui ont joué au Elder Scrolls et qui ont envie de voir leurs références, quelque chose de juste.
Peut-être.
Et donc, tu pourras pas non plus faire ce que tu veux. Tu vas te faire lapider, lyncher par les fans.
Ça peut être bien fait, hein,
c'est vrai.
Puis dans après, le genre, il y avait déjà eu une adaptation au cinéma de Dungeon Siege, vous vous souvenez?
Oh là, oui.
De UV Ball avec Jason Statham, magnifique.
Après, comme autre adaptation de jeu de rôle, mais du coup, ce coup-ci plus dans le futur, ça pourrait être Shadowrun. Donc, jeu de rôle papier, enfin table, jeu de rôle informatique qui sont vraiment excellents. Du coup, ça peut aussi faire une bonne adaptation.
C'est un univers très très riche. Et puis en plus, là aussi, il y a des dragons, c'est parfait.
Oui, bon, c'est pas la. Oui, effectivement.
Shadowrun, une très très bonne idée, je pense. Ça, il y a un univers tellement complet et différent.
Avec toute une histoire de cybercorporation, de méga corporation derrière, qui est, en plus, on retrouve des éléments dans la vraie vie de notre époque, quoi. Les cybercorporations, ça commence à se monter.
Arrêtez de faire du Star Wars, donnez-nous un peu de Shadowrun.
Ah oui.
Sinon, donc, dans les jeux vidéo, pardon, qui vont bientôt être adaptés, bon, en 2020 en cinéma, nous avons aussi un jeu dont on a parlé il y a pas longtemps. Il y a Minecraft. Minecraft en film, s'il te plaît.
En cube, pardon, en film.
Ouais, ça va être un film de cube, ouais. Interdit aux mineurs.
Il est prévu pour mars 2022. On a encore un petit peu de temps, mais.
Bah, avec le coronavirus, il va se prendre 6 mois dans la vue, mais.
Bah, ça dépend, puisque ça, c'est des films qui seront surtout modifiés avec effets spéciaux. Donc la majorité pourrait être fait en télétravail.
Puis ah, mais les puissances de calcul, oui.
Les acteurs ont déjà tourné sur fond vert.
Après, heureusement, hein, y a aussi plutôt Metal Gear Solid qui devrait être adapté. Donc on peut espérer là plutôt une adaptation.
Ça, c'est pareil, c'est une saga tellement inspirée par le cinéma et dans un esprit cinéma. L'idée de le passer sur grand écran, ça passe presque naturel, mais je me dis, ah, c'est déjà fait en fait. Enfin, c'est...
Ah oui, c'est l'impression qu'on a, mais non, bizarrement. Mais c'est vrai que dans le jeu, parfois il y a des séquences tellement longues, tout ça, que oui, on a l'impression d'être devant un film.
Tu regardes les cinématiques au pire, voilà.
Un film interactif.
Et vu qu'on parle de jeux vidéo, si on regarde bien les meilleures ventes des jeux vidéo de 2019, la majorité, enfin une grande partie, reste quand même spécialisée sur les jeux Nintendo, puisqu'on a quand même Mario Kart et de nombreux jeux de Nintendo qui sont en tête. Mais le premier, je te laisse l'annoncer, Pierre-Yves, quel est le jeu number one?
C'est un jeu de sport, heureusement, parce qu'on voit que là, les Français sont très sportifs. Alors, c'est FIFA 20. Eh oui, bon, un jeu de foot.
Alors, est-ce qu'il y a vraiment eu 20 éditions de FIFA?
Ah, je pense même qu'il y en a eu plus que ça.
Ah, il y a eu des éditions spéciales, tu veux dire, c'est pas si...
Et là, on parle
des ventes sur console, mais on parle uniquement des ventes en format physique, donc des boîtes.
Alors, format physique.
Des boîtes.
Oui, mais on est quand même à presque 1 200 000 ventes de FIFA 2020, en 2019, pardon. En sachant quand même que FIFA 19, du coup, il y a quand même eu plus de 200 000 boîtes vendues de cet exemplaire du jeu, en fait.
Je sais pourquoi, c'est typiquement le genre, quand t'es grand-parent ou parent, ou oncle, ou je sais pas quoi, que tu dois faire un cadeau à un jeune, qui a une vingtaine d'années, tu demandes aux parents, il a quoi comme console, et boum, tu prends FIFA, t'es sûr, ça marche. Donc c'est pour ça, je suis sûr que c'est les parents, les grands-parents, etc., qui sont allés dans les magasins acheter la boîte. Parce que tu peux offrir, c'est vrai, sous format numérique, tu peux offrir, faire des bons d'achat ou des cadeaux, ou même offrir un jeu digitalisé, enfin, pas sous forme physique, je veux dire, mais c'est quand même plus facile d'acheter la boîte et de la glisser sous le sapin à Noël.
Alors que ce pauvre gamin va se retrouver avec 3 éditions.
C'est ça le pire, ça arrive.
2020, alors qu'il y a des achats in-game qui auraient pu faire avec cet argent pour avoir ce fameux Ronaldo.
Petit détail amusant dans le classement. Qui est-ce qu'on retrouve à la 15e place?
C'est justement ce que j'allais dire. Avec un peu plus de 200 000 ventes, t'as toujours ceux qui achètent avec 1 ou 2 ans de retard pour profiter des baisses des prix. Après, pour un jeu de sport, je pense que c'est...
Je suis sûr que c'est les mêmes personnes dont je parlais, parce que, justement, les grands-parents, ils vont dans le magasin, mais comme on est en 2019, ils n'ont pas pris FIFA 20, ils ont pris FIFA 19. Ils disent, c'est le FIFA de cette année. Et ils se sont trompés.
C'est pas faux. C'est possible.
Ah, ça pourrait être amusant d'aller examiner les ventes sur eBay et compagnie, et tout, de revente de boîtes de jeux, pour voir.
À noter quand même que, bon, malheureusement, on trouve des Call of Duty. Bon, ça, c'est pas de chance. Mais on trouve quand même un jeu de 2013 qui s'appelle GTA V et on a presque aussi 200 000 ventes pratiquement
en boîte, boîte physique. Hein.
Alors, GTA V online.
Oui, c'est le même.
Format physique, je sais pas.
Format pas physique, si tu es sur Xbox, tu te connectes derrière à Internet, donc tu pourras profiter de cette solution online. Pour moi, si on parle de Rockstar, je pense que GTA V a quand même pris un gros coup et qu'il vaut mieux se reporter sur des jeux tels que Red Dead Redemption.
J'ai cru qu'il n'y avait pas de GTA 6.
Ils sont un peu plus travaillés.
Bientôt.
Alors, je pense que GTA 6 arrive, effectivement. Tout comme Elder Scrolls, qui va sortir une nouvelle version. Je pense qu'ils vont apprendre de leurs erreurs et ne pas refaire un jeu MMORPG. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Apprendre de leurs erreurs, non. Mais... Non seulement ils répètent les mêmes erreurs, mais ils en font des plus graves à chaque fois. C'est intéressant. Aussi.
Donc on aura un nouveau MMO Elder Scrolls avec un univers encore plus réduit. Voilà.
Ouais, à chaque fois, la carte diminue de plus en plus, t'as remarqué.
C'est ça, hein. Si tu regardes les premiers Elder Scrolls, la carte était quasiment infinie, puisqu'il y avait une génération de donjons aléatoires.
Pour Elder Scrolls 8, ça se passera dans une rue. Une seule rue.
Non,
le
je suis
9,
désolé,
ça se
c'est pas
dans
vrai.
Une maison.
Non, c'est faux. C'est pas possible. Voilà, dans la prison. Tu vas commencer dans la prison, et dès que tu te sors de la prison, t'as gagné le jeu.
Le Elder Scrolls 10, ça sera une seule pièce, ça sera ta cellule de prison. Et tu passeras des heures et des heures de jeu à essayer d'en sortir.
Vous dites ça, mais Morrowind, en combien de temps il peut être terminé, le jeu? 20 minutes?
Ça se termine pas, des jeux comme ça. Non,
mais si, en moins de 20 minutes, on a vu des vidéos où en moins de 20 minutes, le jeu était terminé.
Il y a des records, c'est vrai.
Ouais, mais qui fait un Elder Scroll et qui sort justement de sa cellule et qui se dit, ah bah tiens, je vais faire la quête principale. Jamais. Enfin, tu pars faire quelque chose d'autre, enfin tu t'as un croisement, la quête principale à droite et un truc à gauche, bah tu vas à gauche, tu dis tiens qu'est-ce qui se passe, et enfin j'ai jamais fini une quête principale et personne dans mon entourage que je connaisse n'a fini la quête principale d'un Elder Scroll. Bon, surtout dans les premiers, c'était pratiquement impossible.
Mais ça me fait penser au jeu le dernier Far Cry qui était disponible. Tout au début de l'aventure, la personne vous demande de rester assis sur votre chaise et d'attendre. Et forcément, comme vous êtes un joueur, la première chose que vous faites, c'est vous balader, essayer de partir de l'aventure.
Non, ça c'est parce qu'on est français, ça. C'est pas...
Peut-être. Mais si vous attendez dès le début du jeu, hein, vous restez assis sur votre chaise plus de 5 minutes, et ben le jeu se finit. Puisque le gars vous dit, bah, ok, t'es resté assis, tu peux te barrer. Et
puis, je me souviens de ça. C'était de mémoire. Tu venais pour aller sur, te recueillir au temple où est morte ta mère, de mémoire. Pour le scénario, c'était ça.
Ah, non, c'est dès le.
Oui, et toi, tu viens, et le mec qui gère la, enfin, qui tient la zone en question, qui a la main mise là-dessus, te dit, j'ai une chose à faire, mais si t'attends 5 minutes, je t'accompagne jusque ce temple-là et il y aura pas de souci. Le problème, c'est que comme toi, tu bouges tout de suite, ben, il prend ça mal et ça part en fusillade. Alors que si tu attends, oui, 5 minutes, il va attraper et dire, ok, ben, je t'accompagne et tu finis le jeu comme ça. Je crois que c'était Far Cry 3 de mémoire.
Ça fait cher payer le jeu quand même.
Ouais, non, parce que c'est le genre de jeu, tu peux les recommencer autant que tu veux.
Voilà, le but du jeu, c'est surtout de faire les quêtes annexes et d'explorer le maximum de
FIFA,
possibilités.
FIFA, je m'excuse, bah, tu tapes dans un ballon, bah, une fois que t'as fini le match, bah, voilà, j'ai fini le jeu. Une fois que t'as fait un match, t'as fini le jeu, c'est logique.
Une fois que t'as fait une passe, c'est fini.
Finir un match, mais une fois que t'as fait un match de foot, bah voilà, t'as fini le jeu.
Non, mais après, tu écoutes pour les commentaires sportifs, non? Il y a ça aussi, c'est parfois.
Alors, on parle d'Elder Scrolls, et on parlait notamment en début d'émission de Conan. Les éditeurs et les créateurs du JDR Conan vont également produire un jeu Elder Scrolls.
Il existe déjà, parce que le jeu de rôle dont on parlait tout à l'heure, c'est l'adaptation en français, c'est la traduction de la version anglaise, qui est produite par l'éditeur Modifius, qui a produit plein d'autres jeux, et en fouillant un petit peu, je me suis aperçu qu'effectivement, dans les jeux qu'ils avaient créés, avec Bethesda, le créateur de Elder Scrolls, ils avaient créé un jeu de stratégie qui s'appelle Elder Scrolls Call to Arms. Malheureusement, celui-là n'est disponible qu'en anglais pour l'instant. On ne sait jamais. Hein. Ils ont fait la traduction pour le jeu de rôle. Pourquoi pas pour ce jeu-là?
Genre stratégie, c'est un jeu avec des figurines. On est un peu entre la limite du jeu de société et du wargame, là.
Exactement, c'est ça. Avec des magnifiques figurines. Là, on n'est plus dans l'ancien wargame avec les petits bouts de papier, les bouts de carton qui ressemblaient à rien du tout. Là, on est dans la figurine... Tu peux presque acheter le jeu que pour retrouver les figurines. Et tu retrouves bien sûr tous les personnages que tu croises dans le jeu, y compris les personnages les plus connus.
Et tu retrouves, oui, toutes les régions, du coup, enfin, les guerriers des différentes régions du jeu. Et ça ressemble après beaucoup à Warhammer Battle et autres, hein, au niveau des figurines, des dés à lancer, des petits pions à mettre pour les dégâts. Ouais. Bon. C'est vrai que c'est
plus,
sympa.
Plus en mode escarmouche à la Mordheim, Necromunda et compagnie, parce que tu dois pas avoir une grande armée à gérer, mais plus une sorte de gang avec quelques figurines, une dizaine à tout casser, qui vont faire des objectifs sur une map en l'encontre de l'autre adversaire qui lui aura peut-être à contrer ton objectif ou à faire les siens.
Ils ont récupéré tous les guerriers qui s'étaient pris une flèche dans le genou, puis du coup ils ont fait le jeu de stratégie avec.
Bah, on arrive sur le côté 40 000 au niveau nombre de figurines sur la table.
Ils ont repris le système, la mécanique de jeu d'un autre jeu qu'ils avaient déjà fait, qui est dans un autre jeu de Bethesda, un jeu de stratégie dans l'univers de Fallout. Et donc c'est ils ont appelé un designer aussi, Mark Latham, qui a travaillé sur des jeux Walking Dead, sur les jeux Harry Potter, etc. Donc c'est lui qui a adapté en gros la franchise au monde de Elder Scrolls, à Tamriel.
Et apparemment, ça serait un jeu où tu pourrais éventuellement jouer tout seul.
Oui, parce qu'il y a des scénarios, etc. Tu peux même ne pas jouer, juste acheter pour les figurines et les décors, hein, parce que tu retrouves des décors de temples, etc., que tu peux explorer. Tu explores des temples, hein, comme dans le vrai jeu vidéo. Il y a plein de modules différents. Il y a plein de boîtes de figurines disponibles.
De très belles figurines, sûrement en plastique.
Comme d'habitude.
Voilà, et vous pourrez retrouver vos différentes factions, telles que les Stormcloaks, la Légion Impériale, et vous pourrez même avoir des morts-vivants. Assez sympathique, écoute. J'attends de voir la belle figurine des dragons.
Je sais pas s'il y a des dragons.
J'ai pas vu.
Pas encore vu de dragons, on sait jamais. Ça triplerait le prix, je pense. Si tu veux faire des dragons à l'échelle...
Ouais, 5 figurines en plastique, 25 livres.
Écoute, lorsqu'on jouait à l'époque à ces jeux, je me souviens avoir claqué une fortune également, hein, que peu importe le jeu. Hein.
Non, mais c'était pas la même chose. Hein. À l'avant, t'avais un alliage plomb, après ça a été passé au plastique, maintenant c'est de la résine. C'est plus les mêmes procédés de fabrication, tu devrais pas payer aussi cher. Après, voilà. C'est des livres, hein, mais bon.
Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est sur la page de l'éditeur. Donc, c'est Modiphius, modiphius.net. Et ce qui est intéressant, c'est que donc le jeu n'est pas encore sorti pour l'instant. On peut le précommander, mais les PDF du livre de règles et du premier livre de scénario sont téléchargeables gratuitement. Bon, c'est en anglais, mais ça permet de se faire une idée.
Ouais, t'as aussi sur le site, tu as aussi pas mal de petites vidéos YouTube qui sont incrustées dans la page, qui t'expliquent l'univers, les combats, enfin, le jeu en tant que tel, quoi.
Oui, parce que les développeurs font un blog et des vidéos, ils tiennent au courant la communauté, c'est très intéressant.
Allez, vu qu'on parlait beaucoup de jeux vidéo tout à l'heure, il y a quelques petites news qu'on a vu passer, et une qui mérite un peu la palme de la semaine, c'est Call of Duty Warzone, qui a trouvé un système assez innovant pour, alors non pas bloquer les joueurs qui trichent, mais pour un peu les isoler. Alors tout ça, avec une manière assez simple, lorsque eux détectent qu'un joueur est potentiellement un tricheur, ils vont sans le prévenir, et c'est là qu'est toute l'astuce, hein, puisque le tricheur, lui, n'aura aucune information, ils vont simplement le mettre sur un serveur différent.
Oui, parce que... Quoi, il y a des tricheurs dans les jeux vidéo, mais non. En général, quand tu chopes un tricheur comme ça, tu le bannis pour un certain temps, voire de façon illimitée.
Alors, il se retrouve sur un serveur différent, mais avec plein d'autres joueurs. Il va pas être tout seul. Il va être avec toutes les autres personnes qui sont éventuellement des tricheurs également.
Et si un joueur est très très bon au point qu'on pense que c'est un tricheur, ça va pas changer, il va continuer à être bon quand même.
Parce que la grande difficulté lorsque les personnes utilisent des bots, alors ici à Call of Duty, je pense qu'on parle de aim bot qui vous permettent de tirer directement dans la tête, voilà, histoire de pas avoir à viser, de pouvoir tuer assez rapidement dans le jeu vidéo.
Et on parle pas de l'aim bot qui est fourni officiellement avec les consoles, hein. On parle bien d'un bot. Est-ce que t'as des jeux comme ça où ils sont cross-platform, où tu peux être un joueur PC et aller affronter des joueurs console, et les joueurs console te défoncent parce que pour aider les joueurs manettes, forcément, ils tirent dans la tête à 200 mètres, quoi. Mais bon, désolé de l'interruption.
Et la grosse difficulté lorsqu'on a un tricheur, c'est que une fois que vous l'avez repéré, que vous faites un ban de son compte, donc vous l'empêchez de jouer, vous fermez complètement son account, il peut très bien en recréer un. Maintenant, on a des technologies de VPN qui sont assez bien développées, qui leur permettent de changer leur adresse IP, donc ils sont quasiment indétectables dans le jeu lorsqu'ils changent de compte. Alors que si on ne les prévient pas et qu'on les écarte gentiment, toujours sans les prévenir, là, ça permet de contrer cette nouvelle création de compte. Et peut-être que ces gens qui trichent aiment jouer avec d'autres tricheurs, ça leur permettra peut-être de faire de belles rencontres.
Ça permet de t'entraîner, hein. Quand t'es trop fort, que tu trouves pas des joueurs de ton niveau, tu fais exprès de tricher, comme ça tu rejoins tous les serveurs des tricheurs, ou tu joues sans tricher, comme ça, ça te permet de vraiment t'entraîner contre des adversaires très forts.
Toi-même.
Il y a de plus en plus de compagnies de jeux, je me demande si c'est pas Battle.net qui avait commencé, enfin Blizzard. Quand tu crées un compte, tu es obligé de donner ta vraie identité. Tu peux pas créer plusieurs comptes avec des pseudos bidons, etc. Tu dois être vérifié d'abord. Donc ça, c'est un moyen d'empêcher des gens de créer des comptes, des faux comptes à l'infini.
Mais comment y vérifier l'identité de la personne ?
Il faut que tu aies ton vrai nom, ton vrai prénom. Il y a même des compagnies qui vont jusqu'à te demander genre une photo de ta carte d'identité, des choses comme ça.
Ah oui, d'accord.
Un extra ADN, et puis le tour est joué.
De faire un achat pour justifier ta carte bleue.
Il te faut un frère jumeau, donc c'est ça.
Mais ce qui est bien en plus dans cette façon de faire, c'est que quand tu as, toi en tant que joueur, tu fais une partie, tu te rends compte qu'il y a potentiellement quelqu'un qui triche... par sa façon de jouer ou le fait que, oui, flagrant devant toi, il a triché, tu fais un report aux administrateurs qui, eux, vont l'isoler plus tard dans leur serveur, mais ils t'envoient après un message disant que, pas de souci, ce joueur a été banni. Bon, il a juste été exilé sur notre serveur. Donc, au niveau gestion de communauté, je trouve ça pas trop mal parce qu'il te renvoie quand même une réponse. C'est pas juste on va gérer l'info et salut, au revoir. Donc, c'est vraiment bien.
Il faut avoir le temps de le faire hein, parce que on sait qu'en ce moment, avec le confinement, les serveurs de jeux en ligne sont surchargés, sont vraiment boostés. Donc, je sais pas si les employés ont le temps de gérer tout ça.
Après, ça doit être une réponse automatique vu que le déplacement, l'exilé va être fait complètement de façon fantôme. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un derrière, c'est dès qu'il va y avoir un certain nombre de reports sur un joueur précis, hop, ça enclenche directement le bot qui l'exile, quoi.
Alors, on parle de jeux qui rapportent énormément de joueurs, il y en a un autre qui un peu est le succès FPS du moment, surtout sur la nouvelle génération de joueurs, pour dire ça très gentiment, c'est Fortnite. Bon, ça a commencé par PUBG et ensuite c'est Epic Games, hein, c'est bien ça qui avait créé son propre survival FPS bien coloré et qui a plu à énormément de gens. Hein. Je ne sais pas combien il y a de joueurs, mais c'est énorme. Et c'est vrai qu'eux avaient plus ou moins envie de développer leurs jeux vidéo et de les mettre à disposition avec leur propre système. C'est pour ça qu'on n'avait jamais vu cette version mobile de Fortnite sur Google Play par exemple.
Absolument. Il y avait une version, on pouvait le télécharger, mais ça passait pas par le Play Store. Il fallait télécharger et l'installer à part directement via Epic Games. Et en fait, au début, ils voulaient pas parce que tout simplement, Google Play demande une commission, enfin, impose une commission de 30% sur les achats in-app, ce qu'on appelle les achats in-app, dans les achats dans le jeu.
Surtout que ça faisait venir les personnes sur leur launcher qui n'étaient pas encore très connus à l'époque.
Oui, et puis ils ont fait beaucoup d'offres gratuites. Hein, Dom en parlait récemment, il y a eu beaucoup de jeux gratuits, ce qui a forcé les gens à installer l'Epic Launcher.
Par contre, dès que tu veux à l'intérieur acheter une arme spéciale ou un look spécial, une coiffure, un costume pour ton personnage, là c'est payant en général. Et c'est là que Google Play prend les 30%.
Donc Fortnite s'est dit, c'est pas grave, de toute façon les gens vont pas sur Google Play voir les actualités, ils vont direct aller sur mon launcher, ça va passer. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que si Google gère actuellement le référencement un peu pour tout le monde, hein, mais lorsque Google référence ce genre d'application tierce, hein, puisqu'il n'est pas disponible sur son Google Play Store, eh ben ils mettent souvent des restrictions pour trouver de l'application et ensuite ils indiquent à l'utilisateur que c'est une appli potentiellement malveillante.
Ils compliquent un petit peu la vie pour le lancer, quoi, c'est ça.
C'est le savoir-faire de ces grosses sociétés d'internet maintenant d'écraser un peu la concurrence et on voit ça un peu partout, hein, Google, Amazon et d'autres, j'en passe des meilleurs. Alors, pour terminer cette émission, je sais qu'on essaie toujours de faire un petit effort musical pour l'écho des gnous, qui est juste après nous. Alors d'ailleurs, restez, hein, si vous voulez parler un peu plus d'informatique, cette fois-ci libre, c'est le moment. Et on a trouvé un artiste qu'on aime beaucoup, hein, je pense je peux parler pour tout le monde.
Connu de tous.
Ouais, je dirais plus connu de tous qu'apprécié de tous, je pense, ouais.
On prend un risque.
Écoute, le jour où il viendra dans l'émission, tu verras que tu diras que t'aimes bien.
C'est vrai, je dirais que j'ai grandi sur les musiques qu'il a chantées, effectivement.
C'est Bernard Minet. Alors là déjà, il y a un doute qui plane quant à la qualité de cette musique. Mais non, on parlait de Conan en début d'émission, on a parlé également du dessin animé. Et c'est vrai qu'il y avait un générique Conan assez connu de tous. On va pas vous passer la version originale, puisque Bernard Minet s'est trouvé une nouvelle jeunesse. S'est trouvé un groupe de potes. Un groupe de musique pour faire un peu de métal.
Oh, puisqu'il a sorti un album cette année où il a ressorti tous les génériques qu'il a chanté, toutes ses chansons, en version métal.
Il y avait le Henry Death Metal et là on a le Bernard Minet Metal Band avec Conan, l'aventurier, le générique. On se retrouve la semaine prochaine, 18h, 19h pour Heureusement en France et d'ici là, portez-vous bien, ciao!
En plus.
À plus. Salut à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal étoile, il mène une lutte fantastique, celle du bien contre le mal. Pour sauver la terre, au grand galop sur son tonnerre, pour délivrer ses pauvres parents.
péril, le danger, tu sauras toujours triompher. Et avec tes fidèles amis, tu mènes une lutte sans merci. Pour qu'à jamais triomphe le bien dans notre monde de demain. Conan, l'aventurier, héros magique du temps passé. Jamais Conan l'aventurier, le sauveur de l'île.